Chapitre 43. 17 août 1994. Il est 21h. Adrien est allongé sur le lit dans la chambre de Nina. Il écoute son souffle. De temps en temps, elle s'endort quelques minutes, puis se réveille en sursautant. Elle lui parle, lui lance des mots qu'il cherche à comprendre. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qui a vidé la maison? Tu crois que papy nous voit de là où il est? Tu crois qu'il y a une vie après la mort? Il ne s'est quand même pas suicidé à cause de notre départ à Paris. Pourquoi le chauffeur ne l'a pas vu? C'était quoi sa dernière pensée? Ma mère, comment elle saura que son père est mort? Tu crois qu'elle va venir me chercher? Des questions qui tournent en boucle. Tu penses que c'est parce que je lis le courrier des autres? Je suis punie? Tu ne le fais plus. Si, j'ai recommencé. Adrien lui caresse les cheveux, la rassure, lui répète que lui, il est là et sera toujours là. Et si tu meurs à ton tour, lui murmure-t-elle, je ne mourrai pas. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Paola ronfle bruyamment. Elle ignore que bientôt, elle ira vivre ailleurs. Cette maison n'appartenait pas à Pierre Beau. Il l'a louée à la ville. Il va falloir la rendre. Le drame va trop vite, trop loin. La douleur est profonde, souterraine. Un rouleau compresseur. Même si Joséphine et Marie-Laure lui ont assuré que jamais elle ne se retrouverait seule, que toujours il y aurait une place pour elle dans leur maison, cela reste une place, un convertible ou un lit dans la chambre d'un autre. Adrien lui rappelle que dans quelques semaines, ils vivront tous les trois à Paris, que la vie continuera. Mais Nina se sent aussi fragile qu'un verre en cristal de bohème posé sur les rails d'un train lancé à 150 km/h. Elle pense que le malheur est inéluctable. Marie-Laure et Marc Beaulieu sont allés à la gendarmerie pour signaler le cambriolage chez Pierre Beau. Les voisins n'ont rien vu. Au mois d'août, la plupart sont encore en vacances. Les voleurs ont dû en profiter. Il n'y a pas de traces d'effraction. Mais quand les gendarmes ont appris que la clé était cachée sous un pot de fleurs devant la porte d'entrée, ils ont levé les yeux au ciel. Et le chien, trop gentil pour mordre. Adrien commence à s'endormir. Ils sont épuisés. Depuis leur retour de Marseille, ils ont enchaîné les nuits blanches et les jours tristes. Combien de fois Adrien et Étienne ont-ils dormi ici? Pense Nina. Des paquets de KitKat et de bonbons éventrés sur le sol. Le bruit du sac de couchage à chaque fois que l'un d'eux bougeait dans son sommeil. Combien de fois Pierre Beau, découvrant l'état de la chambre, a-t-il crié « Nina, range ta chambre !» Et aère, ça pue les pieds. Il ne criera plus. Nina se demande si là où il est, il y a des boîtes aux lettres, des taxes d'habitation à distribuer, et s'il a retrouvé Odile, s'ils font la tournée du paradis ensemble. Adrien dort, sa main dans celle de Nina. La fenêtre est grande ouverte. La température commence à baisser. Au loin, une famille qui n'a pas encore été frappée par un deuil s'agite autour d'un barbecue. Nina entend des rires, des verres qui claquent, des enfants qui jouent dans une piscine en plastique. Dans sa rue, ce n'est pas comme chez Emmanuel. Les piscines, on les gonfle. Tout à l'heure, le téléphone fixe, qui n'a miraculeusement pas été volé, a sonné 3 fois à 1/4 d'heure d'intervalle. Nina est sûre que c'était lui. Emmanuel la cherche. Étienne doit être avec Clotilde. Il ne l'a pas vue depuis son retour de Saint-Raphaël. Il a prétexté la préparation des funérailles pour l'éviter, mais ce soir, il ne pouvait y couper. Il veut mettre un terme définitif à leur relation. Qu'elle comprenne qu'il part à Paris sous peu et qu'il ne souhaite qu'une chose, avoir 18 ans sans attache. Nina a soif. En fin d'après-midi, Joséphine est passée déposer un pack d'eau et des vivres dans la cuisine. Elle a découvert la maison dépouillée avec stupeur. Ce matin, tout était encore à sa place. Nina a presque peur de descendre seule dans cette maison vide. C'est le fantôme des rôdeurs qui hante les lieux, pas celui de son grand-père. Elle allume le couloir, rejoint la cuisine. Un parfum inconnu flotte dans la maison. Un frisson la parcourt. Elle prend une bouteille et remonte vite dans sa chambre. Elle sombre presque aussitôt. Elle est réveillée quelques minutes après, au milieu d'un cauchemar, soulagée d'ouvrir les yeux. Il lui semble entendre du bruit dans le jardin. Les chats, peut-être. Elle se penche à la fenêtre. Personne. La rue est déserte. Seule une vieille camionnette bleue est garée un peu plus loin. Des papillons de nuit commencent à danser dans la lumière des réverbères. Adrien et Paola dorment profondément. Nina n'a plus sommeil. Elle se lève, enfile une paire de mules pour descendre sur le perron. Deux de ses chats viennent chercher des caresses. Elle ouvre la porte, ils la suivent. Elle s'assied sur une marche, observe le ciel, la nuit qui commence à tomber. Elle ne parvient pas à visualiser son avenir. Avant, il était beau, inconnu, rempli d'espérance. Ce soir, il lui apparaît comme impossible à croire. Toutes ses forces sont anesthésiées, les muscles de sa vie atrophiés. Une porte s'ouvre derrière elle. Ses deux chats s'enfuient. Mais ce n'est pas la porte d'entrée qu'on vient de pousser. C'est celle de la cave. Nina est tétanisée. Un film d'horreur, comme ceux qu'elle enchaîne avec Étienne et Adrien, enfermés dans le noir. Il n'y a plus d'écran entre elle et l'épouvante. Là, sous ses yeux, l'ombre d'un homme très grand, portant un large carton rempli d'antiquités qu'elle et son grand-père remettaient en vente chaque année à l'occasion du vide-grenier de mai. Avec l'argent, il s'offrait une omelette et du fromage blanc au repas champêtre organisé par la commune. Nina reconnaît une petite lampe de chevet, lui ayant appartenu, et quelques babioles qui dépassent, dont ses Barbies. En la voyant, l'homme marque un temps d'arrêt, puis poursuit son chemin en maugréant quelque chose d'inaudible, la frôle en passant, et disparaît dans la rue. Nina n'ose pas bouger, ni appeler Adrien au secours. Elle est comme paralysée. Son cerveau s'est déconnecté, comme quand Marie-Laure lui a appris la mort de son grand-père. Incapable de faire un geste. À la surprise et l'effroi s'ajoute la peur. Quelqu'un d'autre remonte l'escalier. Combien sont-ils là-dessous, dans cette minuscule cave où les bouteilles côtoient outils de jardin, vaisselle ébréchée et bocaux à confiture. Une ombre se profile. C'est une femme. Très mince. Maigre même. Cheveux mi-longs. Comme elle est à contre-jour, Nina ne voit pas son visage. Elle porte quelque chose de lourd. D'imposant. Plus large qu'elle. Un objet que Nina reconnaît aussitôt. La machine à coudre Singer, qui appartenait à sa grand-mère. Juste avant d'éteindre l'ampoule d'un coup d'épaule sur le gros interrupteur, la femme s'arrête en apercevant la silhouette statufiée de Nina tournée vers elle, assise sur une marche du perron. Elles ne sont éclairées que par la fin du jour. Une lumière pâle qui les fait ressembler à deux fantômes. La bouche sèche, Nina ne parvient pas à articuler un mot. L'inconnu referme la porte et donne un petit coup de pied juste là où il faut pour la claquer. On dirait qu'elle connaît les gestes à faire. Ceux pour manipuler l'interrupteur, et maintenant cette porte. Comme si elle était familière des lieux, comme si elle était chez elle, et Nina en visite. « Salut. N'aie pas peur, c'est que moi. Je suis venue reprendre ce qui m'appartient. » Une voix chevrotante, mal assurée. « Je vais poser ça parce que ça pèse son poids, et je reviens. » Tout comme l'homme auparavant, elle frôle Nina et disparaît dans la rue. Elle réapparaît quelques secondes plus tard, seule, les bras vides. L'homme doit l'attendre à l'extérieur. « Je savais pas que t'étais là. T'es rudement jolie. Je t'ai vue à l'enterrement du vieux. T'as perdu ta langue ? Tu sais, c'est pas facile. La vie, c'est facile pour personne. Tu me diras, on se connaît pas. Tu peux pas te souvenir de moi, t'étais trop ch'tite. » Elle s'assied sur une marche en dessous de Nina, se tourne vers elle en allumant une gitane. La brève lumière du briquet illumine son visage. Elle porte un jean bleu très serré et une brassière rouge qui dégage ses épaules osseuses. Cette femme est un sac d'os, sa peau une couverture fine, blanche, qui laisse apparaître des veines bleutées au cou et aux avant-bras. « Je vais pas traîner, on a de la route. » Elle tire des taffes nerveuses, ses ongles rongés jusqu'au sang. Je voulais croiser personne, surtout pas les voisins. Elle écrase sa cigarette sur le talon de sa chaussure compensée. T'as des copains ici? Je les ai vus au cimetière, ceux qui te tenaient la main. Elle se lève sous le regard interdit de Nina, va pour dire quelque chose, l'embrasse sur la joue et se retourne, le pas pressé. Quelques secondes après, la camionnette bleue fait une marche arrière et disparaît dans la nuit. Nina aperçoit le profil de Marion côté passager. Elle baisse la vitre pour se faire de l'air sans la regarder, sans même un signe de la main. Nina reste quelques minutes ainsi, pétrifiée. Elle était au cimetière ce matin. Et sans doute pendant la cérémonie à l'église qu'elle et lui sont entrés, ont fait leur repérage, puis l'homme a vidé la maison pendant que l'autre assistait de loin à l'inhumation. Nina finit par se lever en titubant, comme un soir de cuite, et vomit de la bile sur les hortensias de son grand-père. Comme une petite vieille, elle marche jusqu'au téléphone et appuie sur « rappel ». Emmanuel Damam répond immédiatement, à croire qu'il dormait avec l'appareil à la main. « Viens me chercher, » l'implore-t-elle.
« Où tu es ?»«
Chez mon grand-père. »«
J'arrive. »
Elle remonte dans sa chambre, observe Adrien endormi, un enfant. Il lui apparaît très jeune tout à coup. Elle est passée subitement dans une vie d'adulte. Elle a besoin de quelqu'un qui soit plus vieux. Elle veut oublier sa jeunesse, son enfance, son passé. Et il est beaucoup trop tôt pour l'avenir. Adrien et elle ont grandi en éclopée. Adrien sans père, elle sans parents. Nina a toujours espéré au fond d'elle, dans un espace reculé, inavoué, que sa mère l'avait abandonnée pour de bonnes raisons. Trop jeune, inexpérimentée, seule, apeurée, perdue, qu'un jour, elle implorerait son pardon. Que s'est-il passé entre la jeune fille souriante sur la photo de classe, entourée de ses copines, et la chose qu'elle vient de voir, ses agissements ignobles? La réalité est définitivement trop difficile à encaisser. Elle n'aurait jamais voulu savoir, pas dans ces circonstances. Une femme qui vient voler son propre père alors que son corps est encore chaud, que va-t-elle faire de ses pauvres affaires? Les vendre pour récupérer quelques francs? D'abord, comment a-t-elle su qu'il était mort? Et comment peut-on se foutre de son enfant à ce point? Lui parler comme à une vague connaissance, une ancienne voisine de palier. Et cet homme qui l'accompagne, qui est-il? Son mari? Son amant? Son proxénète? Son dealer? Nina s'en veut à présent de ne pas avoir parlé, pas réagi. Elle aurait dû crever les pneus de la camionnette, appeler les flics, les dénoncer, les frapper, les insulter, hurler. Elle est restée inerte comme une chiffe. Elle voulait demander, poser la question, celle qui l'obsède depuis toujours. Qui est mon père? Elle a laissé Marion s'envoler comme un oiseau de malheur. Elle reconnaît le bruit du moteur de l'Alpine d'Emmanuel, si particulier, qui s'arrête devant la maison. Elle jette un dernier coup d'œil à Adrien et Paola avant de quitter sa chambre. Il n'est que 22 heures.